Vous écoutez
RMC.
Nice à présent. Où va le GC Nice? Fait-il les bons choix de recrutement? J'accueille dans l'after Jean-Philippe, alias Sky Nissa. C'est ainsi que les supporters niçois le connaissent. Créateur, présentateur du podcast Avanti Nissa, très suivi sur la Côte d'Azur. Bienvenue dans l'after, Jean-Philippe.
Bonsoir tout le monde, merci pour l'invitation et hâte de parler avec vous de ce mercato maintenant agité, le GC Nice.
Salut Jean. Enfin, j'entends le soulagement dans ta voix également. Et lui, il sort gentiment de ses vacances pour venir nous parler de deux joueurs italiens qui concernent le GC Nice. Johan Crochet était avec nous. Salut Johan.
Salut Nico, bonsoir à toutes et à tous.
Ouais, ça fait quelques semaines qu'on l'a pas entendu, Johan. Il est parti en Italie en vacances, tout ça.
Il a la voix, tu vois, il a la voix reposée.
T'as vu ça?
Il a été à la plage aujourd'hui, Johan, non?
En Bretagne peut-être.
Non, en Bretagne, oui, pas en ce moment, mais alors la plage, non, je suis pas très plage, moi, je préfère bouger que de faire la crêpe sur la plage. Mais...
T'es pas un oisif, toi, rester deux heures sur une plage là.
Non, absolument pas. Je m'ennuie.
Non, une plage italienne quand même.
Moi, je m'ennuie sur une plage.
Sud,
une demi-heure, je m'ennuie.
Une plage des Pouilles, là, tu te poses.
Il y en a des très très belles, mais non, c'est vraiment pas mon truc les plages.
Ouais, genre, il faut que l'animation, que tu veux un spectacle. Effectivement, l'Italie, c'est sympa, sur les plages napolitaines, mais sinon,
non, mais une plage avec un matelas, le bruit des vagues pour faire la sieste, c'est sympa, non?
Ouais, à condition de voir. Moi, je sais pas. Non,
avec un cocktail.
Ouais, un cocktail. Je sais pas.
Bah,
ouais,
tu vas pas à l'étranger pour faire la sieste, sinon tu restes chez toi.
Non, mais quand même.
Moi, c'est à l'étranger que j'ai appris à faire la sieste.
Mais bien sûr.
Le Tour de France, tu fais la sieste.
Tu promènes le matin, l'après-midi, tu fais une petite sieste. C'est comme ça.
Le sieste,
soir,
c'est un peu 10 minutes, 15 minutes maximum. La sieste gasconne, c'est la vie, ça. D'accord. Bien sûr, c'est la vie, la sieste, c'est la vie.
Ouais. Mais je suis d'accord, faut pas qu'elle soit trop longue, sinon
pas trop longue. C'est le secret de la sieste. Les grands dormeurs.
Le petit plaisir de la vie, c'est été, température caniculaire, volet fermé. Le Tour de France derrière.
Ah bah,
le bruit dormir de le bruit d'hélicoptère.
J'expliquais ça à mes enfants tout l'été, mais dormir devant le Tour de France, il y a pas mieux. C'est extraordinaire.
Avec le bruit des pales de l'hélico.
Sur la première heure, hein, ou la deuxième, tu vois, les deux premières heures, pas sur le final, bien sûr, mais bon.
Réveille dans le dernier kilomètre, quoi.
Voilà, exactement.
Bon, j'imagine que Jean-Philippe a fermé les volets à Nice depuis plusieurs semaines où il fait une température caniculaire, une chaleur sourde, Jean-Philippe.
Exactement.
C'est très dur à vivre, je le sais, j'y suis passé il y a quelques jours. Thibaut revient aussi. Alors Nice, deux joueurs dont l'un sera officialisé sûrement dans les prochaines heures, c'est Jérémy Boga de l'Atalanta et le défenseur Luca Pellegrini de la Juve, hein, que Nice espère attirer. Voilà pourquoi Johan est avec nous, il nous en parle dans un instant. Tiens, d'abord Jean-Philippe, déjà bonne nouvelle, tu disais, hein, c'est enfin en train de bouger à Nice. Hier soir, on apprend aussi que Morgan Sanson est prêté par Aston Villa après s'être relancé sur la deuxième partie de saison à Strasbourg. C'est un bon début, comment tu le juges?
C'est un début tardif, mais c'est un bon début. On est globalement très content d'accueillir Morgan Sanson, voilà, un joueur expérimenté qui connaît très bien la Ligue 1, plus de 200 matchs, qui va, je pense, apporter pas mal à ce milieu de terrain. On a certes une grosse densité de talent, mais plutôt de jeunes talents, qui est un orphelin de Mario Lemina depuis son départ il y a quelques mois. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, on l'aurait peut-être encore mieux accueilli si ça avait été il y a 3 semaines qu'aujourd'hui, mais bon, l'essentiel c'est qu'il soit là en cours de préparation et avant le début de championnat.
Quelle est ton analyse, ton regard là-dessus? Pourquoi si tardif selon toi? Est-ce que c'est dû à la priorité de Jim Ratcliffe, hein, qui a pas eu le temps avec Manchester United peut-être, ou au changement également de d'importance accordée au gym dans son investissement dans le foot? C'est Farioli qui est arrivé aussi, mais il est arrivé il y a un mois déjà, Farioli, hein, 30 juin. Je t'écoute, Jean-Philippe.
Je pense qu'il y a un peu tout. Malheureusement, Francesco Farioli est arrivé un peu tard après un très long feuilleton Régis Lebris. Dont vous parliez juste avant mon arrivée dans l'émission. Je pense que l'entraîneur voulait voir aussi qui il avait à disposition dans le groupe dans les premières semaines de préparation avant de prendre certaines décisions. On sait que les intentions d'Ineos envers le GC Nice sont quand même peu claires. On passe de l'année dernière, on va concurrencer le PSG, ce qui était certes illusoire, mais ce qui était le projet annoncé, à aujourd'hui vache maigre. On est obligé de virer un maximum de gros salaires pour espérer faire rentrer des joueurs en prêt. Bon, donc je pense qu'il y a eu aussi un changement de stratégie en cours de route. Faudrait poser la question à Florent Ghisolfi, mais je suis pas sûr que les pistes sur lesquelles il travaille après le mercato d'hiver soient tout à fait les mêmes que celles sur lesquelles il travaille là ces dernières semaines. Et puis bon, ça fait un peu aussi partie de l'ADN du club, hein. Je crois que l'année dernière, notre première recrue, c'était aux alentours du 20 juillet. Donc au final, si on part sur ce référentiel-là, on n'a pas tant de retard que ça. Et peut-être dernier élément, est-ce que, vu que Ineos coupe un peu les robinets, on espérait une grosse vente, je sais pas, celle de Khéphren Thuram par exemple, qu'on évoquait du côté de Liverpool en tout début de mercato, qui aurait pu débloquer la situation plus tôt? L'offre est jamais arrivée, donc peut-être qu'on est obligé de composer avec des finances qui n'étaient pas celles prévues.
Je rappelle que Dolberg a pris la direction de la Belgique, Anderlecht. Stengs, a priori, ce sera Feyenoord. Viti, hein, lui, est prêté à Sassuolo. À l'instant, officialisation de l'arrivée de Jérémy Boga à l'OGC Nice. On parle d'un transfert autour de 20 millions d'euros. Je rappelle, milieu offensif de 26 ans, international ivoirien, né à Marseille, préformé à Chelsea, arrivé enfant à Chelsea, puis lancé chez les pros à Rennes en 2015, prêt successif à Grenade en Espagne, à Birmingham, et donc en Italie, Johan, depuis 2018. Parle-nous de Jérémy Boga. C'est vrai qu'on a perdu un peu sa trace, hein. On sait, il y a eu Sassuolo et l'Atalanta.
Ouais, on a perdu sa place parce qu'en fait, sa trace, pardon, parce qu'en fait, c'est un lapsus, hein, il a un peu perdu sa place aussi dans les classements du football italien. Quand il était à Sassuolo sous De Zerbi, ça marchait très très fort. Et puis, il y a eu ce transfert à l'Atalanta où j'ai toujours eu et très rapidement beaucoup de doutes en fait pour une simple question tactique parce que Gasperini ne joue pas avec des ailiers et en fait on sait que Jérémy Boga a besoin de beaucoup d'espace et de secondes pour aller provoquer ses adversaires et quand tu es derrière l'attaquant bah tu as non seulement moins d'espace, moins de temps aussi pour agir, pour exécuter et donc j'avais eu beaucoup de doutes et effectivement on a eu un Jérémy Boga qui n'a jamais vraiment retrouvé son niveau de Sassuolo, alors sachant qu'il y avait eu aussi entre-temps un Covid qui avait été long et qui avait été difficile à gérer pour Jérémy Boga. C'est parmi les joueurs qui a été le plus touché en Italie le plus longtemps par un Covid long. Donc il y a pas mal de facteurs qui ont expliqué aussi le fait qu'à l'Atalanta ça n'a pas trop marché. Mais voilà, moi les infos que j'avais, c'est que aussi à l'entraînement, ça se passait pas toujours très bien dans le sens qu'il comprenait pas toujours ce que voulait Gasperini de lui dans ce rôle-là auquel il n'était pas habitué. Donc si l'OGC Nice retrouve le Boga de Sassuolo, ça sera vraiment un très gros coup parce que attention, Jérémy Boga, c'est vraiment quand vous le mettez sur son côté gauche et que vous lui donnez pas mal de liberté, de latitude pour aller provoquer l'adversaire. Moi j'en avais parlé avec Farioli et sur les matchs amicaux de Nice on le voit hein, sur les côtés il manque des joueurs percutants qui gagnent d'un contre un, c'est quelque chose qui manquait vraiment à l'OGC Nice et s'il retrouve le Boga de Sassuolo ça peut être vraiment très intéressant sachant que vraiment moi le point qui explique essentiellement le fait que Boga à l'Atalanta n'ait pas réussi dans des largeurs que pouvaient estimer les dirigeants de l'Atalanta, c'est vraiment pour le coup une question tactique et pas autre chose. C'est pas une mauvaise volonté, un mauvais caractère, l'envie de rien faire, etc. C'est vraiment pas ça. Boga, c'est plutôt un caractère timide, réservé, qui lui est d'ailleurs un peu reproché par De Zerbi en disant bah moi j'aimerais qu'il soit plus présent dans le jeu, qu'il prenne plus le ballon, qu'il ose plus aussi. Donc voilà, c'est un peu un affectif et quand il sera placé sur son côté gauche et si c'est le cas dans l'équipe de Farioli, ça peut faire vraiment de très belles choses à Nice, je trouve.
Quasiment 20 millions d'euros. Je rappelle que l'Atalanta avait sorti 22 millions d'euros hein, ouais. Pour acheter Jérémy Boga à Sassuolo. Alors beaucoup de réactions sur les studios de supporters niçois, ils disent mais c'est beaucoup trop cher.
C'est beaucoup. Moi,
plus que ça me paraît démesuré. Mais
surtout après avoir entendu quand même Johan, on sait qu'il suit de très 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 près la Serie A et quand il dit que en fait, ce que tu nous dis, Johan, c'est que c'est un super coup pour l'Atalanta d'arriver à revendre un joueur qui était un peu dans une impasse.
Ouais, ils ont acheté 22, ils le vendent 20.
Bah, c'est un super coup.
Je sais pas, déjà. Kevin, parce que, très beau coup pour l'Atalanta. Moi, je trouve surtout que c'est un échec de l'avoir pris pour l'utiliser de la manière dont tu l'as utilisé,
ouais.
En fait.
Ouais, mais tu le revends 20 millions alors que c'est un échec, c'est beau.
Ouais, mais il était aussi venu pour très cher, avec beaucoup d'attentes. Donc, c'est pas une réussite ni pour Boga ni pour l'Atalanta, le passage de Jérémy à Bergame. Mais vraiment, moi, j'ai confiance parce que on a peut-être un peu oublié parce que Bergame c'était moins étincelant et il avait moins d'espace pour faire le Jérémy Boga qu'on connaît. Mais attention, quand il prend le ballon et qu'il commence à prendre de la vitesse et à accélérer, c'est vraiment impressionnant.
Bon, si ces 20 millions d'euros est confirmé, ce sera le quatrième plus gros achat de l'histoire de Nice, hein, derrière Dolberg, Sofiane Diop et Terem Moffi, bien sûr, arrivé cet hiver. Oui. C'est la preuve, en tout cas, Jean-Philippe, que la famille Radcliffe investit encore.
C'est assez étonnant. Bon, je rejoins les réactions globalement qui disent que ça me semble être un transfert assez élevé pour un joueur qui malgré tout a relancé, même si bon, il y a quand même un talent hein, derrière. C'est pas non plus un pari. C'est pas ce que je suis en train de vous dire, messieurs. Mais voilà, l'Atalanta finalement retombe presque sur ses pattes après quelques saisons d'errance. Nous, c'est un moment où on a malgré tout un peu moins d'argent à investir sur le marché des transferts. On voit qu'on essaye de faire d'autres joueurs essentiellement en prêt, donc c'est une grosse somme investie. Après, Francesco Farioli le connaît depuis l'époque de Sassuolo, donc on peut lui faire confiance là-dessus. C'est un joueur qui va être un joueur frisson et c'est vraiment le profil qui nous manquait devant. Donc on voilà, on peut être un peu circonspect sur le prix. Maintenant, j'espère que dans 2 ou 3 ans, quand il nous aura emmené en Coupe d'Europe, ou si jamais il repart dans un plus grand club pour le double, finalement, on aura oublié le montant de son transfert.
Après, il y a quand même toujours l'inconnu et qui est le vraiment le trou noir à Nice depuis plusieurs saisons, c'est la question des latéraux, Jean-Philippe. Là, on n'a toujours pas réservé. Alors, peut-être Luca Pellegrini.
Alors justement, Luca Pellegrini, à l'intérieur de gauche, 24 ans.
Pour l'instant, c'est le gros problème, il est surtout là depuis au moins 2 saisons.
Oui, et puis Luca Pellegrini, mon cher Johan, quelle assurance tu as? C'est un homme qui s'est souvent blessé, 24 ans, qui a déjà connu plusieurs clubs dans sa carrière. Hein, il a commencé à la Roma.
Des latéraux qui se blessent,
à Nice, Francfort, Cagliari, le Genoa. Nice est optimiste quant à son arrivée, mais il est dans quel état ce joueur-là, 24 ans seulement?
C'est la seule interrogation, en fait. C'est dans quel état? Tu as raison, Nico, parce que c'est un joueur que j'ai découvert, il avait 15 ans, moi, dans les équipes de jeunes de la Roma. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il était dans les équipes de jeunes de la Roma en étant un grand supporter de la Lazio. Et en fait, c'était un des plus gros talents du centre de formation de la Roma. À tel point que Raiola l'a évidemment récupéré très rapidement. Et en fait, il a eu beaucoup de blessures, dont 2 très graves au genou. Il s'est fait les ligaments et la rotule. Et en fait, ça l'a clairement freiné et ensuite ça a surtout abîmé son corps, ce qui fait qu'aujourd'hui il est très fragile. Il a beaucoup de pépins physiques, musculaires, parce que dès qu'il revient, c'est un joueur qui est très explosif, donc il force un
peu. Après Attal, ça va faire du bien.
T'as raison. Ouais.
Non, mais je suis partagé en fait, parce que ce joueur-là a vraiment un profil intéressant. Je veux dire, c'est un très bon centreur. Il a un dribble extérieur pour se mettre sur son pilier gauche, qui est très intéressant. C'est un très bon contre-attaquant. Il va très vite. Il prend très bien les espaces, c'est un joueur qui est intéressant, mais c'est toujours pareil avec ces joueurs-là, c'est qu'il y a tellement de blessures et de risques de blessures que tu sais pas trop sur quel pied danser finalement. Est-ce que tu dois être enthousiaste parce qu'il est capable de faire, ou est-ce que tu dois être un peu pessimiste et te réfréner parce que bah en fait tu sais que à un moment ou un autre ça va lâcher, donc je sais pas, moi pour avoir vu les matchs de Nice, Thibaut, tu les as peut-être vus en match amical. Moi, j'ai vu un Bar en grande difficulté.
Ah bah ça a été comme ça toute la saison. Non, hein. Bar, il est fidèle à ce qu'il est. Enfin, là, Jean-Philippe, Sky, tu peux. Quand tu le Bar, tu es intarissable.
Non mais c'est ce qu'il a décidé d'appeler Sky.
Très bien. Mais c'est comme ça son vrai nom, c'est Sky.
Ah, son vrai nom, c'est Sky.
Non, son vrai nom, c'est son nom de streamer, enfin de podcaster.
Je sais pas ce que t'en penses, Sky, mais en tout cas, les Lyonnais, quand on disait que Melvin Bar, c'était quand même très limite pour l'Olympique Lyonnais, nous disait, mais non, mais vous allez voir, il va partir ailleurs et puis on va encore.
On va se rendre compte après coup.
Je ne suis pas sûr. Maintenant, concernant Pellegrini, moi, ça me fait un peu penser, Johan, toute proportion gardée à Zaniolo. En fait. Zaniolo, qui est un joueur extraordinaire, mais quand tu vois aujourd'hui qu'il est à Galatasaray, et encore une fois, bon, j'ai pas vu tout le match cet après-midi, mais j'ai vu quelques commentaires.
J'ai vu 1 heure aussi, c'est catastrophique.
Voilà, donc il y a un moment, la blessure au genou, malheureusement, c'est quand même. Alors, je veux pas le dire parce que ça n'arrive pas à tous les joueurs, mais il y en a quand même qui ont de grandes difficultés à retrouver, ne serait-ce qu'un niveau cohérent par rapport à ce qu'ils étaient. Et en fait, ça me fait un peu penser à. Rappelle-moi le nom de ce défenseur italien qui a signé il y a quelques saisons à Rennes.
Rugani.
La Juve.
Ouais, mais je veux dire, attention, hein, t'as beau être passé par la Juve, mais la Ligue 1, c'est quand même compliqué. Donc, à mon avis, de tout ce que tu m'as dit, je suis pas sûr que ce soit vraiment une bonne pioche.
Bon, c'est pas fait en tout cas pour Pellegrini. En revanche, hein, selon l'équipe, latéral droit de Leicester, Ricardo Pereira, qui a laissé des grands souvenirs à Nice, pourrait trouver le gym qui aimerait le faire revenir.
Attention,
mais il y a du monde dessus. Hein. Ouais, lui aussi, hein, 29 ans. Voilà.